17 km à l'ouest d'Orléans, avait une petite boutique, une échoppe de tisserands. Et c'est mon grand-père qui, en 1883, a acheté une entreprise, une fonderie, qui existait déjà et qui était dirigée par une femme. Chose assez curieuse à cette époque. Cette entreprise date de 1859, donc ça représente déjà 110 ans d'activité dans la région. Et depuis 1883, l'entreprise Chenesseau appartient appartenait à mon grand-père, et ensuite à mon père et mon oncle, les deux fils de mon grand-père, qui ont pris la suite, qui sont décédés maintenant, et qui ont laissé cet enfant à travailler dans cette même société. Ce qui semble assez étonnant parce que les problèmes familiaux sont toujours très difficiles à solutionner. Il y a toujours des heurts. Mais l'extension aidant, on a pu trouver chacun une raison d'exister. Et si on dit que les Français sont individualistes, nous le sommes spécialement. Donc un individualisme avec 7 personnes dans une même société de la famille, c'est assez délicat à équilibrer. Et c'est équilibré par le fait d'une diversification de toutes nos fabrications, de nos activités. Je suis donc très orléanais et mes cousins, les fils de mon oncle qui travaille avec moi sont aussi orléanais, mais eux ont quand même, de par leur mère, une association avec d'autres régions de France qui est le Nord, les Ardennes françaises. Et nous sommes réunis au sein de cette société simplement depuis 1955, date à laquelle la troisième génération a pris possession d'une certaines responsabilités. Alors c'était assez inquiétant parce que on dit souvent en France, je ne sais pas si c'est la même chose qu'en Angleterre, la première génération crée l'entreprise, la deuxième la développe, et puis la troisième la mange. Alors il s'agissait de savoir si nous serions justement les gloutons de l'activité passée de nos parents. Jusqu'ici, justement, on a essayé d'éviter cette catastrophe et les événements ont prouvé, ma foi, que l'entreprise continuait à se développer, puisque de deux responsables, mon père et mon oncle, qui ont pris la succession de mon grand-père, nous sommes véritablement parlé 6, plus un septième qui a une activité partielle, qui est mon frère aîné, qui est directeur général de la société, mais qui est aussi directeur adjoint d'une plus grosse société à Paris. Donc, qui n'intervient pas trop dans l'évolution quotidienne, mais qui donne la directive générale. Je crois que ça existe dans tous les pays. Les problèmes familiaux dans les entreprises sont toujours très difficiles à solutionner. Et dernièrement, justement, je n'y suis pas allé, mais mon beau-frère a assisté à une conférence d'un professeur d'une université catholique de Lille qui étudie beaucoup justement ces problèmes d'évolution des entreprises familiales. La seule chose que j'en ai retenue, que l'on m'a racontée, c'est qu'il avait été amené à penser qu'une des seules solutions, c'était de faire signer entre tous les membres de la nouvelle génération qui allait bénéficier d'une entreprise, une espèce de charte reconnaissant que l'activité de la société devait être remise entre les mains de l'autorité la plus compétente et l'autorité qui se distinguerait, pas forcément l'aîné, pas forcément le respect du droit d'aînesse, mais de la compétence et de la qualification, et qu'en fonction de cela, eh bien, il se remettrait à lui pour prendre des décisions et ne pas avoir à toujours contester ou à jalouser ou à avoir toutes les perturbations que peut amener justement des discussions au sein d'une famille pour des raisons d'intérêt à l'intérieur d'une société industrielle. Alors, pour nous, la chose s'est donc solutionnée par la diversification et la responsabilité mise entre les mains de chacun des membres de la famille, qui est complètement libre de son activité à l'intérieur de la société vis-à-vis des autres, qui collaborent aussi dans une autre activité parallèle. Et puis, on a reconnu justement cette autorité d'un... Dans le cas présent, c'est mon frère aîné, qui était d'ailleurs le plus âgé de la famille, mais en même temps qui avait aussi une expérience extérieure par la direction générale d'une autre société, qu'il pouvait devenir le prince ou notre tuteur dans toutes nos activités. Et de ce fait, nous nous réunissons ensemble une fois par mois, mais nous vivons comme si nous étions des entreprises étrangères à l'intérieur d'une seule société. Je me souviens avoir travaillé aux États-Unis dans une entreprise qui se disait la plus grande des petites entreprises. Peut-être, justement, nous serions un petit peu sur cette voie, pas semblable, mais nous sommes que des petites entreprises qui cherchons, plus ou moins, chacune à se développer. Et l'équilibre est donné par une présence qui n'est pas quotidienne, mais périodique, pour assurer l'équilibre de nos activités. Et nos activités sont à la base une fonderie qui date donc de plus de 100 ans, qui est maintenant depuis près de 90 ans entre les mains d'un membre de la famille Chenesseau. Et au fur et à mesure, justement, de l'évolution des générations, mon grand-père a passé la main à ses deux fils. Comme, malheureusement, comme ça se fait un petit peu trop, justement, en Europe, mon père était technicien, ingénieur des arts et métiers. Et il voulait volontiers rentrer dans cette fonderie, mais mon oncle appréciait beaucoup plus l'idée de faire une carrière militaire. Et c'est son père qui lui a dit « Non, tu iras travailler dans la fonderie. » Alors, contraint et forcé, il a travaillé dans la fonderie aussi. Et puis, comme l'entreprise n'était pas suffisante pour l'expansion nécessaire pour la direction de deux personnes, mon oncle a créé un atelier parallèle d'atelier de mécanique automobile, de réparation de moteurs, vers 1930. Avec magasin de vente de pièces détachées et d'accessoires automobiles. Alors ces deux activités se sont développées. Et quand la troisième génération est arrivée, il y avait donc toujours cette fonderie, un atelier de mécanique, un magasin. Automatiquement, trois enfants sont venus prendre l'occupation d'un poste de direction dans ces... département. Et puis, l'industrialisation à la suite de la dernière guerre, s'est faite. Il y a eu de la place pour un autre membre qui avait besoin de trouver aussi une possibilité de travail. Alors, il s'en est raccroché un, mon beau-frère, qui est venu m'aider pour les questions commerciales à la fonderie, puisque je suis rentré, j'ai commencé à travailler il y a exactement 20 ans après. Mais tout en partant un petit peu à droite et à gauche, en allant séjourner quelquefois à l'étranger, puisque j'ai eu la chance d'aller déjà une fois en Angleterre, à Birmingham, dans une fonderie. C'était en 1947, on était 47. J'ai eu la chance d'aller en 1949 faire un stage en Suède, dans une aciérie. Ensuite, en 1950, j'ai voulu être émigrant au Canada, pour connaître le Nouveau Monde. Ça n'a pas réussi pour une question de santé. Mais j'ai réussi en 52 de passer 2 mois comme étudiant aux États-Unis avec un service d'échange. J'avais l'intention d'y travailler, mais je n'ai pas pu, alors je suis revenu. Et en 1954, j'ai réussi à trouver par ce même organisme d'étudiants une possibilité d'apprendre les relations humaines parce que c'était une chose qui était très peu connue en France. C'est tout juste si on en parlait déjà vers 1954. Et ce groupe de... cet organisme plutôt d'échange d'étudiants avait pensé très, très salutaire justement de favoriser ces questions de relations humaines parce qu'elles étaient très, elles avaient été très étudiées pendant la guerre par les Américains. Et c'était certainement pour eux une source d'amélioration sensible des relations à l'intérieur des sociétés en Europe. Et cet organisme d'étudiants a donc créé cette possibilité de séjour dans les entreprises uniquement pour étudier ces questions-là. J'y suis allé, et puis évidemment, quand on est technicien et que l'on va apprendre les relations humaines, le faire pendant des mois, c'est un peu long. On n'est pas dirigé dans cette direction. C'était pour moi une expérience très heureuse, mais j'ai vite changé d'activité à l'intérieur de la société où je me trouvais et je suis rentré davantage dans l'atelier plutôt que dans les bureaux pour suivre tout le développement au long des journées des personnes qui étaient spécialisées dans toutes ces questions de relations humaines. Mais j'avoue que ça m'a été très, très salutaire parce que je pense que dans le monde du travail, c'est une action qu'on n'ose jamais mener suffisamment de front et avec beaucoup d'ardeur parce qu'il faut y prendre du temps et puis il faut que des personnes s'occupent essentiellement de toutes ces questions pour favoriser les contacts entre les individus. Et en France, on était tellement loin que j'ai beaucoup appris. Et je crois, entre autres, je l'ai dit à un de mes amis qui a eu énormément de peine en 1968, lorsqu'il y a eu toutes les grèves dont vous avez entendu parler, et puis tous les arrêts dans les universités. Plusieurs fois, je ne sais pas si même de l'étranger, mais si, je crois que ce sont des... Entre autres, un Américain qui a fait cette réflexion, qui était reporté dans un journal, et que ce qui manquait beaucoup à la France, encore, c'était justement le développement des relations humaines. Et si c'est une chose connue, je crois qu'elle est encore peu appliquée. Et il me semble que l'on a encore beaucoup de progrès à faire dans ce sens. Enfin, j'ai donc séjourné presque une dizaine de mois aux États-Unis et ça m'a été aussi très profitable parce que c'était encore assez près de la guerre et nous étions vraiment très, très loin l'un de l'autre. Les principes de travail, le dynamisme de l'entreprise américaine, l'esprit de recherche continue, le désir d'amélioration féroce que les Américains recherchent continuellement, le désir de progrès, de simplification de la vie, c'est quelque chose que nous ne connaissions pas et que nous connaissons même encore mal. C'est pour ça que si quelquefois on a l'impression de se rapprocher des Américains par le progrès continuel que nous faisons, certaines fois, on se demande même si on arrive à les suivre, si on ne continue pas à prendre du retard. Parce que ces notions de progrès, de dynamisme, de but à atteindre, c'est très peu utilisé dans le monde industriel français, à part évidemment quelques entreprises qui ont un succès remarquable sur le plan mondial, mais je pense que nous restons toujours avec notre satisfaction du passé et puis de la joie de vivre, mais sans oublier quelquefois aussi les responsabilités que certains dirigeants ont de poursuivre, parce qu'ils ont une responsabilité non seulement économique, mais quelquefois morale de tous les gens qui les servent. Et La vie américaine, de ce côté-là, est choquante même pour un Européen quand on arrive la première fois. Mais on est tellement loin l'un de l'autre que l'on s'apprécie beaucoup parce qu'on y découvre des tas de raisons justement d'approfondissement de son métier et de raisons aussi de pouvoir travailler pour les autres. Alors après donc ce séjour aux États-Unis en 1954, mon beau-frère était rentré peu de temps avant dans l'entreprise. Il y a eu un certain développement des affaires et puis au cours des journées de travail, on a trouvé l'occasion de développer un autre magasin dans une ville aux environs d'Orléans, à Chartres. Chartres, je crois, est bien connue des Anglais parce que c'est un lieu de passage pour aller en Italie ou en Espagne. Et souvent, justement, c'est une route où on rencontre beaucoup de voitures anglaises qui partent en vacances. Et puis il y a la cathédrale, qui est tout de même un sujet de déplacement qui vaut la peine. On a donc monté un magasin à Chartres, et ce fut l'occasion de la rentrée d'un de mes cousins, donc d'un autre membre de la famille. C'était en 1958. Et en 1960, on a trouvé aussi une représentation. Et un de mes cousins revenait du service militaire en Algérie, de la guerre, où il avait participé pendant 2 ans environ. Et l'occasion s'est trouvée d'avoir une carte de représentation de volucompteurs, c'est-à-dire d'appareils qui permettent de distribuer l'essence dans les réservoirs de voitures. Alors nous avons pris cette carte et à la base de cette carte, c'est-à-dire d'une somme de 5 millions d'anciens francs, somme assez réduite, nous avons développé une petite entreprise qui a duré 10 ans. Parce que cette entreprise, nous l'avons vendue l'année dernière. Les circonstances ont été telles que nous avons pu la développer par un autofinancement régulier, avec les possibilités qu'offrait les résultats des autres entreprises qui n'avaient pas ou qui ne pouvaient pas ou que les circonstances ne favorisaient pas, qui ne pouvaient pas se développer. Alors, c'est cet atelier-là qui s'est développé. Et les lois de l'économie sont venues bouleverser ce marché dans lequel nous avions créé cette société, qui fonctionnait bien, mais qui était dépendante d'une plus grosse société qui était absorbée par une autre. Et qui avait l'intention de faire une distribution par une autre méthode qui risquait de nous faire perdre toute la valeur de cette société. Alors nous l'avons vendue purement et simplement. Et ce cousin est rentré dans l'ensemble du groupe auquel nous avons vendu ce petit département. Et peut-être fera-t-il carrière dans cette nouvelle société ou. Peut-être reviendra-t-il un jour dans une nouvelle activité que nous créerons. Je ne sais pas. Si bien que de 7, nous ne sommes plus que maintenant 6, et à vrai dire même 5, puisque nous sommes 5 à y travailler, plus mon frère qui est né, qui est le sixième, qui ne vient qu'une partie du temps, environ un jour, 2 jours par mois à peu près. Alors voilà, grossièrement, mais de façon peut-être assez confuse l'évolution d'une entreprise familiale, ou tout au moins un petit résumé de l'évolution dans laquelle elle a vécu pendant une centaine d'années.
C'est très très intéressant. Et j'aurais quelques autres questions à vous poser là-dessus. Comment se fait-il qu'il y ait une fonderie à Orléans? Est-ce qu'il y a des matières premières tout près ou...
Non, il n'y a pas de matières premières, mais les fonderies, je pense, je fais cette comparaison, elle n'est pas très exacte, mais elle mérite quand même d'être retenue. Des briqueteries, il y en a un petit peu dans tous les comtés d'Angleterre. Les briqueteries sont répandue un petit peu à travers tout le territoire, tout le pays. De la fonte, c'est vraiment un des matériaux ferreux les plus connus et les plus anciens que l'on a utilisé et dont on a même abusé l'utilisation. Alors de ce fait, comme il y avait beaucoup d'utilisation de pièces de fonderie, on construisait des ponts, on faisait des machines, on faisait du matériel agricole, on faisait des pièces pour le bâtiment, pour la voirie, pour la chaussée et pour les routes. De ce fait, les besoins étaient donc très divers et les fonderies se sont répandues à travers tout le territoire français comme un peu les briqueteries qui faisaient les briques aux environs pour toutes les maisons que l'on construisait parce qu'on trouve de la terre pour faire des briques. Pour la fonderie, bien, un des matériaux de base, ce qui semble curieux, c'est le sable, c'est la terre argileuse. Des terres argileuses, on en trouve assez facilement dans la campagne, elles ne sont pas toutes aussi bonnes. C'est pour ça que certaines régions, comme les Ardennes, près de la Belgique, étaient jusqu'à ces dernières années le fief réputé de la fonderie française. Mais l'évolution se faisant, les techniques ont permis de ne pas se rassembler spécialement où il y avait une bonne terre pour faire les moulages, mais aussi de tenir compte d'un certain nombre de besoins, comme l'utilisation. Et si en France nous avons 89 départements, dans chaque département il y avait 1, 2, 3, 10 et peut-être même 50 fonderies. 50, je pense, dans les Ardennes. Par contre, je dis 10 parce que à Orléans, dans le département du Loiret, il y a à peu près une dizaine de fonderies. Dans d'autres départements plus modestes, plus pauvres, où l'industrie n'existe pas beaucoup, où la population est assez peu dense, il n'y a peut-être pas une seule fonderie. Mais on a subi aussi quand même la lutte économique du développement et du progrès, des transformations des techniques et des matériaux. Et de ce fait, comme en Angleterre, comme en Allemagne, comme aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, beaucoup de fonderies ont fermé parce que c'était un matériau ancien et nous avons été grugés par les matériaux nouveaux. Déjà, les alliages légers, les métaux légers, mais aussi par des techniques comme les matériaux plastiques, et puis de l'acier qui était laminé, qui était découpé et qui était transformé en ce qu'on appelle la mécanosoudure. De ce fait, les techniques aussi de gestion des entreprises ont amené certaines sociétés à se développer, mais si elles se développaient, ce n'était pas forcément parce que l'économie demandait plus de besoins de fonds, de pièces de fonderie, mais aussi parce qu'elle le prenait sur le compte des autres, ce qui amenait un certain nombre de fermetures. Donc, du fait d'une économie qui était peut-être plus grande, une industrialisation plus importante, mais comme on venait pomper sur le marché de la pièce de fonte, des pièces qui autrefois étaient faites en fonte ont été mise sous forme de pièces en plastique. Le marché est resté toujours constant pendant un certain nombre d'années et la lutte, la concurrence a fait disparaître les moins valeureux. Oui. Pas forcément toujours les moins valeureux, mais quelquefois aussi des questions de chance ou des questions de moindre prudence. Certaines entreprises ont lancé des programmes de développement alors que la période n'était pas bonne. Vous avez eu la chance de tomber exactement dans la période la plus faste pour faire une opération de déplacement de notre fonderie, puisque vous êtes passé il y a une demi-heure. Chez moi, l'entreprise que nous avions avant était à 150 mètres. Et nous avons subi une lutte très sévère de pollution atmosphérique qui a duré près de 8 ans. Qui m'a valu même un voyage jusqu'à Los Angeles, vous voyez, pour étudier les problèmes de pollution atmosphérique. Ils ne sont pas très sévères en France, mais nous avons eu un acharnement de nos voisins très fort. Et cela m'a obligé justement à aller presque être un des premiers pionniers en apportant des idées américaines, d'origine américaine, pour solutionner partiellement nos difficultés. Et cela nous a permis d'attendre pour réfléchir avant de faire un bond, une étape importante dans l'évolution de notre activité industrielle. Nous étions une petite fonderie enfermée à l'intérieur de la ville, et c'était au début de la troisième génération. Alors un certain nombre de questions comme les méthodes de financement, l'engagement aussi que l'on prend quand on montre un atelier nouveau et important, et il fallait le faire de façon continue, que passation d'un atelier ancien à un atelier moderne se fasse sans heurts dans la production. C'était des engagements qui ont demandé des années de réflexion pour trouver toutes les solutions et être certain que dans une activité comme la fonderie, qui à cette époque-là justement était très sombre, on soit bien certain que ce ne serait pas la perte complète de la société comme ça peut l'être justement lorsque tout n'est pas analysé avec soin et préparé. Alors, nous avons donc développé notre fonderie et c'est vous dire que nous avons bien l'impression que la situation d'Orléans ne peut nullement nuire à l'établissement d'une fonderie, même si nous n'avons absolument aucun matériau de base à Orléans, parce que le charbon vient du nord de la France. Les fontes actuellement viennent du nord de la France. Nos sables, nous les achetons dans la région parisienne. Mais comme les dernières années, la concurrence a été suffisamment sévère pour nous éprouver, nous donner confiance, et que nos voisins, un certain nombre, ont disparu. Nous nous sommes trouvés devant un marché qui était en expansion. Orléans était une ville très bourgeoise, de retraités. C'était une ville de campagnards, de Beausserons, du nord de la Loire, qui venaient se retraiter, de Sologneaux, qui venaient aussi passer leurs dernières années en habitant Orléans. C'était une ville de petit commerce, il y avait peu d'industrie. Mais devant l'essor de l'économie française après la guerre, Orléans a eu une bonne idée, je crois sous l'égide de mon oncle, qui était président de la Chambre de commerce à cette époque, de créer une première zone industrielle, c'est-à-dire de penser justement de sortir les entreprises d'Orléans de la ville. Je crois que mon oncle a été aidé dans cette idée par le fait que la guerre de 1940-1944 a beaucoup détruit la ville. Il fallait repartir et il fallait faire du neuf. Il ne s'agissait pas de reconstruire les usines dans la ville. Et cette idée, justement, a été le départ, je crois, de l'essor industriel d'Orléans, qui ne connaissait pas l'industrie. On a créé une première zone industrielle et maintenant, cette idée a fait tâche puisque Orléans possède, je crois, 5 zones industrielles. Nous occupons la quatrième, oui, et la cinquième se trouve près de l'université, à la source, où il n'y a pas encore grand-chose, mais je pense que ce sera un élément aussi de progrès et de développement pour l'activité générale de la région. Alors, cette situation d'Orléans aussi nous est favorable parce que nos voisins avaient souvent de vieilles entreprises et elles n'ont pas, pour beaucoup, elles n'ont pas survécu à la crise que nous avons connue ces 10 dernières années. Et puis l'industrie a été plus ou moins chassée de la région parisienne parce que le gouvernement s'est inquiété du développement de la région de Paris et du monstre que ça représentait. On parle souvent de Paris et le désert français. Et je ne sais pas si cette notion est connue en Angleterre, si on s'imagine ce que ça représente, mais c'est très exact. En dehors de Paris, de quelques centres qui ont tout de même une importance sensible dans la vie économique française, Lyon, Lille, peut-être. Mais Paris est une tentacule vers laquelle on essaie toujours de réagir, mais avec beaucoup de difficultés, il faut que les lois soient très sévères pour empêcher que tout se concentre sur Paris. Les chemins de fer sont un exemple, justement, de la concentration sur Paris. Et certainement une influence sensible, parce que quand on veut se déplacer, il faut souvent passer par Paris. Et quand on veut une autorisation, il faut passer par Paris. Mais actuellement, les lois sont assez sévères. Quand on construit dans la région parisienne, il faut payer une taxe que l'on ne paie pas dans la région d'Orléans. Et quand on va plus loin qu'Orléans, dans des régions plus éloignées, on reçoit même de l'argent du gouvernement pour favoriser l'industrialisation de certaines régions qui souffrent d'un excédent de main-d'œuvre et qui ont besoin de recevoir l'installation d'entreprises pour permettre à ces gens de rester sur place et de ne pas émigrer sur la capitale ou des centres qui sont déjà trop industrialisés. Alors Orléans a bénéficié de ce fait depuis une quinzaine d'années de la venue d'un certain nombre d'entreprises. Nous avons des entreprises qui viennent de la région parisienne et même maintenant des bureaux, des services administratifs qui se décentralisent à Orléans. Je crois que la situation géographique d'ailleurs est assez agréable, le bord de Loire, la distance assez faible qui nous sépare de la région parisienne, parce que pour les épouses, c'est toujours un problème très, très important. La sortie de Paris est souvent considérée comme une catastrophe. Et de ce fait, Orléans, je pense, satisfait à peu près, mais un certain nombre d'amis ont des difficultés, et on peut dire des difficultés, mais des critiques de leurs épouses lorsqu'ils viennent à Orléans, parce que ce n'est pas la vie de parisienne. Mais tout ceci fait que Orléans et toute sa région est donc une clientèle très intéressante pour nous, et les fonderies, toutes les industries de services, et nous sommes une entreprise de services, puisque nous fabriquons pour les industries qui ont besoin de pièces moulées, il est bon d'être assez proche d'eux pour avoir des échanges réguliers et faciliter nos contacts. De ce fait, non seulement sur la facilité que nous avons à travailler sur Paris, sur toute la vallée de la Loire, sur le centre, où jusqu'ici la métallurgie n'était pas très bien représentée, nous avons tout un monde qui s'ouvre à nous et qui nous donne énormément de foi dans le développement possible de notre entreprise. En ce qui concerne la fonderie, pour les autres activités, je pense que l'essor d'Orléans est aussi un gage de prospérité future, puisque je pense que Orléans doit doubler en l'espace de 10 ou 15 ans. Je pense qu'on fait actuellement des projets pour 300 000 habitants vers 1980 ou 1985. Et ayant connu Orléans avant la guerre de 1940, ça me semble tout à fait inimaginable. Parce que c'était une ville assez triste. Et maintenant, bien, c'est une ville qui semble active, et si on doit penser qu'elle doit se développer en 15 ans, on a de la peine à s'imaginer comment se réalisera justement toute cette transformation.
Justement,
Enfin, c'est pour vous situer un petit peu le cadre dans lequel vit la fonderie. Et surtout pour aussi une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que les produits maintenant voyagent dans de très bonnes conditions, à des prix assez bas. Et de ce fait, si une fonderie a besoin de se trouver près de ses clients, c'est surtout aussi pour favoriser les relations entre les membres des sociétés, pour faciliter les contacts techniques, les échanges commerciaux. Mais les produits, eux, on arrive à les faire voyager assez facilement. Et de ce fait, notre éloignement des sources de production de nos matériaux de base ne nous gêne pas beaucoup. Et puis, comme dans toute fabrication, pas comme dans toute fabrication, mais dans un certain nombre de procédés de transformation, il est possible d'utiliser des matériaux de récupération que nous trouvons dans la région, ce qui limite assez sensiblement tous les frets, les transports que l'on a de nos matériaux bruts que l'on reçoit de la région du Nord.
Est-ce que vous produisez uniquement sur commande, est-ce qu'on dit, ou
oui,
est-ce que vous créez...
Il y a deux façons de travailler, soit sur commande ou sur catalogue.
Oui.
Et nous fabriquons presque exclusivement sur commande. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous appelons fondeur sur modèle. C'est-à-dire que c'est uniquement sur les modèles des clients. Ils sont leurs propriétés, déposés chez nous. Et ils nous demandent un certain nombre de pièces sur ces modèles qui sont leurs propriétés, que nous le faisons souvent. Mais nous n'avons absolument pas de fabrication répétitive, ou très peu pour nos propres besoins. On a constitué tout de même, je dois l'avouer, un petit catalogue de pièces en fonte que nous faisons, parce que nous avons cherché à répartir les risques de notre activité. Et si nous avons essayé de diversifier notre clientèle, d'avoir une répartition suffisamment importante pour que le plus important de nos clients ne représente pas plus de 10% de notre entreprise, nous avons conservé un souvenir, un échec de mon père, qui un jour a su de son plus gros client, qui représentait 50% de l'activité de son entreprise, qu'il allait lui arrêter dans le courant d'année toutes ses fabrications. Nous sommes efforcés de ne pas recommencer. Ce n'était pas forcément une erreur, mais enfin cette imprudence peut-être. Et en essayant de diversifier, non seulement en ayant beaucoup de clients, ou tout au moins aucun client important, nous avons essayé aussi de toucher le plus grand nombre possible de secteurs d'activité. C'est pour ça que nous touchons un petit peu la machine-outil, un peu la construction de compresseurs, la machine agricole. Hélas, nous sommes dans une région d'agriculture où il y a un certain nombre de sociétés de construction de machines agricoles. Nous sommes amenés à suivre ces fabrications de machines agricoles. Mais nous travaillons aussi pour l'industrie navale. Nous faisons même des pièces qui partent au Japon, avec donc le concours de sociétés qui font des fabrications d'armement naval pour le port de Nantes. Et nous faisons aussi des pièces de chaussée, justement de voirie, en faible proportion, mais qui sont un appoint lorsque nous avons des difficultés de manque de travail, nous en faisons un peu plus, et puis lorsque nous sommes à l'aise. C'est une catégorie de clientèle avec laquelle on peut jongler, si on peut dire, plus facilement. Alors nous avons un petit catalogue, je crois l'avoir là sous les yeux, si ça vous intéresse, je peux vous le montrer.
Oui, sûrement, oui.
Voilà les produits justement que nous faisons. Et qui est un catalogue qui était récemment imprimé. C'est l'œuvre de mon beau-frère qui fait toute avec beaucoup de soin. Et
oui.
Je pense qu'il est assez précis et très clair pour permettre à des gens, à des maçons ou à des personnes qui ne sont pas du tout de la profession, de connaître par les photos, par le dessin, tout ce qu'ils ont besoin de connaître.
Oui. Vous avez parlé de diversification, donc, et aussi de problèmes de pollution atmosphérique que vous avez dû, auxquels vous avez dû faire face. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui sont arrivés avec ce changement de site et changement de méthode?
Il y a un problème qui était surtout le problème essentiel, c'est le problème du financement.
Oui.
C'est là où nous avons commencé à nous apercevoir que c'était un problème difficile à maîtriser. Et c'est ce qui nous a demandé justement des années de réflexion, parce que au sein d'une famille, prendre une décision d'investissement très important, ça nous a appris à nous connaître davantage, savoir quelles étaient nos intentions, quelles étaient nos réactions vis-à-vis justement d'une dépense aussi importante, et même l'obligation qui nous a été donnée de chacun apporter un peu d'argent dans la société pour montrer aux organismes qui nous ont prêté que nous désirions faire cette opération, a donné l'obligation justement de resserrer le cercle. Si nous étions individualistes, chacun dans notre département, de nous resserrer pour ce que les dépenses importantes d'une activité soient aussi supportées par d'autres activités et qu'elles soient acceptées. Et de ce fait, c'était un problème humain déjà aussi qui est intervenu. Et puis ensuite, surtout un problème de financement, de recherche, de crédit pour assurer justement la construction de cet atelier et le remboursement avec un certain délai. Je ne pourrais pas beaucoup m'étendre de ce côté-là parce que c'est surtout mon frère qui est président de cette société qui était le plus capable pour mener à bien cette recherche de financement. Je pense qu'il l'a fait avec beaucoup d'aisance. Puisque maintenant, nous sommes déménagés, et nous avons fait même plus que nous avions espéré au départ, et que nous poursuivons d'autres constructions, comme vous avez pu le constater, après 18 mois de déménagement, nous avons repris des constructions, et c'en est une, et à la fin, après les vacances prochaines, nous reprenons une construction justement d'un magasin de fourniture, parce que cette première action de transfert nous a montré qu'il serait bon dans l'industrie que toute société, tous les 10 ou 15 ans, change de lieu, déménage, comme peut-être ce serait bon dans une famille aussi peut-être de changer, mais dans une industrie c'est encore plus essentiel, parce qu'il y a trop d'habitudes, trop de mauvaises habitudes, et le développement a amené quelquefois des solutions qui n'étaient pas rationnelles, dont on se contente parce qu'on a peur de lancer une grande opération, mais quand on en a fait une, on s'aperçoit combien c'est salutaire et combien il est bon de remettre tout en ordre. Une fois, je dis tous les 10 ans, c'est peut-être tous les 15 ans, ou peut-être tous les 20 ans. Tout dépend aussi de l'espace dont on disposait qui a permis un essor convenable. Mais de remettre tout en question, je pense que ça apporte beaucoup. Et puis, ça donne l'occasion de tout réviser. Et en même temps, en 20 ans, les techniques ont souvent beaucoup évolué. Et on a souvent trop l'habitude de conserver des objets anciens. Parce qu'ils semblent utiles, mais quelquefois ils coûtent très cher. Et puis aussi par esprit, attachement que l'on peut avoir pour les choses avec lesquelles on a passé de nombreuses années. On oublie de les ferrailler, de les perdre et puis de les remplacer par du neuf. Alors faire table rase, c'est certainement une très bonne chose.
Oui, pour vous et pour votre personnel, le personnel qualifié, si vous n'avez pas eu de difficultés avec les changements de méthode.
Si, avec le personnel, on a eu quelques difficultés, mais enfin qui ont en général pas eu beaucoup de... qui n'ont pas représenté beaucoup de difficultés, sauf quelques-unes où, autant pour raison de santé que pour une question d'habitude aussi de nos ouvriers, de nos meilleurs contremaîtres même, qui était très ardent, mais peut-être trop de sa peine, quand il est arrivé dans cette nouvelle installation. Suivant l'expression française, il a perdu les pédales, et il a dû quitter l'atelier parce que, après le premier jour, il ne se sentait plus du tout à l'aise. Heureusement, il était près de la retraite et il était fatigué, alors... les deux choses se sont ajoutées, mais pour l'ensemble des autres membres de l'entreprise, il y a eu quelques adaptations pour essayer de leur faire comprendre le sens dans lequel on voulait que les nouvelles activités se réalisent quotidiennement. Mais ce fut en général très simple parce que nous avons essayé de construire cette nouvelle unité, cette nouvelle fonderie avec l'avis de l'ensemble de nos collaborateurs, tous les contremaîtres, même tous les employés ont été invités à différentes étapes, plus ou moins rapprochées, suivant leurs compétences et le besoin de connaître et de donner leur avis, ont été amenés à participer à cette création. Et de ce fait, quand on est arrivé ici, ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains. Et ils avaient même un cahier sur lequel ils pouvaient apporter toutes leurs suggestions pour que ça corresponde à ce qu'ils espéraient ou à ce qu'ils souhaitaient ou à ce qu'ils ce qu'il leur semblait utile ou indispensable. Et ayant pour la majeure partie essayé de satisfaire à toutes ces suggestions, tout s'est bien passé puisque en 1968, fin juillet, nous étions dans l'ancienne usine, et le 1er septembre, nous avons travaillé normalement dans la nouvelle installation.
Vous avez combien de salariés ici?
Combien de salariés? Nous sommes en tout dans la fonderie 130 personnes. Mm-hmm. 130 personnes, il y a 4 cadres, c'est-à-dire... un directeur commercial, je remplis la fonction de directeur technique, un directeur des fabrications et puis un ingénieur qui a participé justement à l'établissement des plans et à la réalisation de cette nouvelle construction. Et puis, en dessous, il y a, je crois, un sous-ingénieur et 8 contremaîtres. Ce qui représente environ 115 ouvriers ou de tous échelons, du professionnel au simple manœuvre.
Est-ce que vous-même vous formez vos ouvriers sur place ou est-ce que ils arrivent déjà avec un brevet ou un certificat quelconque?
Nous éprouvons dans la fonderie beaucoup de difficultés. Je crois que dans tous les pays européens, aux États-Unis, dans le monde entier, l'évolution des techniques nouvelles a véritablement sabordé la formation professionnelle en fonderie. Et de ce fait, il est devenu à peu près impossible de former des jeunes à ce métier qui est sombre, qui est noir, dans des ateliers bien souvent très sale, très poussiéreux. C'est un métier qui paraît au départ un peu rebutant parce que les techniques sont complexes, sont souvent un peu encore du domaine de la recette de cuisine. Mais la science s'y développe et il y a quand même beaucoup de progrès qui sont réalisés. Mais tous les jeunes sont portés vers l'électronique, vers l'électricité, vers la mécanique. Mais la fonderie, il est à peu près impossible de trouver des candidats. Ou alors si on trouve des candidats, ce sont des mères de famille qui sont désolées de leur enfant qui n'a pas réussi dans ses études primaires et qui vient vous demander de lui donner une profession. Hélas, c'est à peu près le seul recrutement que l'on a et ça ne permet pas d'avoir des professionnels de grande qualité. Mais quelquefois, ce sont des garçons de grande bonne volonté et qui, par la pratique justement, arrivent à acquérir au bout de 3 années de formation professionnelle, comme nous l'avions autrefois pour le certificat d'aptitude professionnelle qui donner un gage justement de 3 années d'études, de travail. Ces jeunes arrivent quelquefois à être bien meilleurs que d'autres jeunes qui sont passés par des écoles professionnelles où ils ont eu une formation dans l'atelier, mais aussi une formation plus poussée sur des études de formation générale, que ce soit les mathématiques ou le français ou l'histoire. Et quand ces jeunes viennent justement de cette école, s'ils ont une formation générale très, très bonne au point de vue pratique, dans l'atelier, ils sont complètement déroutés. Il leur faut souvent plusieurs années pour arriver à devenir des ouvriers identiques à ces jeunes que nous avons formés sur le tas. Malheureusement, la France, je pense qu'en Angleterre, vous avez ce même phénomène. Il y a eu des lois pour développer la scolarité. Et c'est devenu un drame en France, parce que les jeunes sont obligés de continuer leur scolarité jusqu'à 16 ans. On peut reconnaître que c'est une très bonne chose, mais nous avons fait une très grosse erreur en poussant la scolarité sans penser à la prise de conscience d'un travail manuel et professionnel qui soit distribué en même temps. Si bien que les jeunes sortent à 16 ans, ne savent rien faire, donc ne veulent plus travailler manuellement, et ils sont trop nombreux pour pouvoir prendre un poste dans des bureaux ou dans des activités plus ou moins intellectuelles. Et dernièrement, nous avons eu cette expérience, nous avons besoin d'un employé masculin. Nous avons fait passer une annonce, nous avons trouvé 25 personnes et un bon nombre d'hommes, alors que nous n'avions pas spécifié, mais les deux, si, nous avions spécifié, nous n'avions eu que des hommes, 25 hommes. Et nous cherchons de temps à autre des ouvriers, des professionnels, des manuels, qui seront même mieux payés que cet employé, et nous n'en trouvons pas. Parce que la scolarité est venue perturber justement toute formation à la base, et c'est un handicap très, très fort pour tous les jeunes qui sont amenés à poursuivre leurs études. Le gouvernement s'en préoccupe, et je crois que dernièrement, il y a eu des lois justement, ou tout au moins des idées émises par certains ministres pour obliger justement à penser à cette formation professionnelle pendant la scolarité de 14 à 16 ans, mais nous sommes encore loin de la réalisation. Et c'est pour ça que depuis 15 ans que je travaille dans la société, nous avons formé peut-être 6 jeunes. Je pense qu'il en restera 3. 50%, c'est peut-être... C'est en général une bonne moyenne, je suis ni plus mal ni mieux. Mais la vallée de la Loire aussi n'est pas propice à cette activité de fonderie. La nature y est plus souriante que dans d'autres régions. Il n'y fait pas froid l'hiver, l'agriculture est assez répandue, il y a des possibilités de travail dans toutes les activités comme la mécanique, l'électricité, et puis le commerce, et bon nombre d'occupations ou de travaux moins pénibles que la fonderie. Alors, tout concourt justement à nous supprimer la main-d'œuvre jeune que l'on désirerait trouver. Mais d'un autre côté, les techniques prospèrent, enfin les techniques de fonderie se développent, et nous sommes dans une industrie où on est obligé de se mécaniser, et où nous avons besoin de moins en moins de professionnels. Alors avec les anciens, avec l'apport extérieur d'autres entreprises qui ont fermé, des quelques jeunes que l'on a éduqués dans notre métier, je pense que nous n'en souffrirons pas trop. Par contre, sur le plan de la main-d'œuvre, en général, étant donné que c'est un métier qui n'est pas très apprécié parce qu'il est fatigant, il est sale, il donne quand même, malgré tout, il faut le dire, je pense, beaucoup de satisfaction parce que c'est un métier qui est pénible, mais lorsque l'on prend soin, comme d'ailleurs dans beaucoup de professions, d'aimer son travail, de le faire jusqu'au bout, on y trouve beaucoup de découvertes, quelquefois qui ont demandé beaucoup d'efforts, de fatigue, mais la récompense arrive et c'est une satisfaction, je crois, qui n'est pas insensible à tous les professionnels et tous les membres, enfin tous les cadres de la fonderie. Il faut être pris par le feu, par la flamme justement de cette profession. Et une fois que l'on est pris, on oublie un petit peu tous les aspects un peu rebutants, comme la chaleur, la saleté, la fatigue. Mais alors, je voulais terminer aussi, c'est que, concernant justement la main-d'œuvre, de ce fait, la région ne s'y prétend pas beaucoup, et puis l'essor industriel se faisant, le besoin de construction de nouveaux immeubles, les ouvriers qui peuvent venir en fonderie sont souvent des gens qui peuvent travailler aussi bien dans l'agriculture que dans le bâtiment, que dans d'autres activités plus aérées. Bien, la fonderie est dédaignée. Et pour cela, les lois du travail, justement, souvent permettent aux étrangers qui désirent venir en France trouver un salaire, une rémunération pour leur peine, sont en général acceptés dans des professions comme la fonderie, la métallurgie en général, la briqueterie parce que c'est lourd, c'est pénible aussi, il faut s'occuper du four. Et en ce qui nous concerne, à la fonderie, nous avons à peu près la moitié de notre main-d'œuvre qui est d'origine étrangère. Nous avons beaucoup de Portugais parce que c'est un pays qui est assez bien rattaché à la France par d'abord une facilité qu'ont les Portugais à apprendre le français. Et puis, peut-être aussi parce qu'ils ont à souffrir de conditions très, très médiocres, des conditions de vie très médiocres. Ils arrivent en grand nombre en France et ils sont d'une main-d'œuvre très d'origine agricole et ils sont donc rudes à la tâche. Et dans la fonderie, c'est ce qu'il faut parce que c'est un métal qui est lourd, un métal pondéreux et il ne faut pas être trop économe de sa peine. Et d'autre part, c'est vraiment des gens avec lesquels on collabore très volontiers, qui sont très agréables. Nous avons des Espagnols aussi. Je crois un Italien peut-être. Nous avons eu deux ou trois Yougoslaves. Nous avons encore quelques Algériens, un Marocain aussi, deux Marocains peut-être, quelques gens aussi des territoires d'outre-mer, aussi de France, de la Martinique par exemple, qui viennent, parce que ce sont des territoires qui sont quelquefois pas très évolués et dont l'économie n'est pas suffisamment prospère pour absorber la main-d'œuvre de ces régions, et nous avons comme ça quelques Français de territoires lointains. Je pensais aussi au point de vue financement. Je crois qu'il y a quelque chose, c'est que nous avons subi et donc une pression de changement de lieu qui était imposée par notre voisinage. Et il me semble qu'en Angleterre, ces questions sont beaucoup plus aidées qu'en France. D'après ce que nous avions étudié, le gouvernement favorisait justement par des prêts le déplacement des entreprises qui pouvaient être néfastes à la santé publique. Et en France, rien n'est vu sous cet aspect. Il n'y a absolument aucun prêt, aucune facilité qui sont données encore aux entreprises qui peuvent nuire à la santé publique. Et c'est ce que nous avions remarqué. Je pense que nous avions vu que l'Angleterre facilitait la moitié de la dépense, je crois, sur peut-être 10 ans, des prêts qui étaient donnés aux entreprises, qui étaient appelées à soit faire des installations importantes, soit déménager. En France, nous n'avons pas encore cet avantage. Je crois que de ce côté, justement, la structure industrielle française se ressent de son infériorité par rapport, enfin de sa moindre importance par rapport à l'Angleterre, où ces problèmes-là aussi sont peut-être devenus plus urgents, plus dramatiques qu'en France, où notre territoire étant plus large, plus étendu, les conditions n'ont peut-être pas été aussi sévères que vous avez peut-être connu. Notre cas a été exceptionnel, puisque nous avons eu un comité très virulent. Mais en général, je crois que nous ne sommes pas soumis peut-être à une urgence pour solutionner ces questions-là aussi graves qu'en Angleterre. C'est mon point de vue, je ne suis pas très. Je peux aller très souvent en Angleterre, mais.
On est toujours impressionné en arrivant en Angleterre par les grands espaces en France,
Ah oui.
c'est vrai. Le territoire qu'il y a, qui reste, le terrain qui reste à développer.
Oui.
Vous êtes qualifié, je crois, comme un groupement de petites entreprises plutôt qu'une grande entreprise.
Oui.
Oui. C'est par rapport à quoi que vous vous situez
Bien, parce que nous
comme
sommes un groupement de
petite.
petites entreprises, parce que
Oui.
notre activité était composée d'une installation pétrolière où il y avait 50 personnes, d'une fonderie qui avait, avant son déménagement, 85 personnes, d'un atelier de mécanique qui avait 50 personnes, d'un magasin de fournitures industrielles qui se trouve à Orléans qui avait 45 personnes, d'un autre magasin qui se trouve à Chartres qui avait 12 personnes. Alors, notre société est un peu